Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode un peu spécial puisque nous allons revenir sur une des tribunes qu'a écrit Lionel pour le journal des grandes écoles et des universités dédiée à cette saga Twitter. Bonjour Lionel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mathieu.
Et avant d'aller plus loin, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Innovation and Prospective Talk directement sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. N'hésitez pas naturellement à partager la bonne parole. Sans plus attendre, le sommaire de cette émission. En premier lieu, donc, nous reviendrons sur cette tribune, la saga Twitter, qui reviendra notamment sur ce fameux personnage qu'est Elon Musk, mais nous ne vous en disons pas plus pour le moment. Et en deuxième temps de ce podcast, nous partirons à la rencontre de My Kids Factory, des deux fondateurs qui ont créé cette solution permettant de redonner goût à la lecture aux enfants grâce à l'intelligence artificielle, plus encore générative, par des expériences extra personnalisées. Programme chargé, c'est parti. Et nous revenons donc sur le rachat de Twitter à froid, ou peut-être encore à chaud, parce que finalement on est toujours à chaud avec Elon Musk. La riche idée d'Elon Musk, c'est le titre de cet article dont je rappelle le préambule, où Lionel, tu précises que les réseaux sociaux basés sur l'économie de l'attention engendrent by design toxicité et risques sociaux. Twitter est devenu aujourd'hui une agora du débat démocratique mondial grâce à ses contributeurs influents, rachetés par Elon Musk en octobre 2022, nous le rappelons, cette démarche était-elle impulsive, révolutionnaire ou vise-t-elle à transformer sa structure ? La réponse, Lionel, tout de suite.
Ce qu'il faut dire, c'est que pour cet article, j'ai beaucoup condensé et il y a quelques liens qu'il faut suivre dessus. Donc tout ce que on va dire et échanger aujourd'hui n'est pas la totalité des informations que les internautes peuvent aller découvrir. Non, on s'est posé la question justement avec la rédactrice chef de cette plateforme, le monde des grandes écoles et des universités, sur est-ce que, puisque c'était à peu près le titre, et tu sais, les titres, quand on met des points d'interrogation à la fin d'un titre, c'est qu'on n'a pas la réponse, en fait.
Ah ben non, mais non, j'ai essayé l'intérêt.
et donc, forcément, on tient le lecteur en haleine sans jamais vraiment apporter de réponse ou peut-être en ouvrant des pistes de réponse, et c'est plutôt ce que j'ai essayé de faire. Et donc le titre, c'était le rachat de Twitter, est-ce que c'est la riche idée d'Elon Musk, est-ce que c'était une riche idée de racheter Twitter?
Oui, parce qu'au départ, le rachat de Twitter par Musk, c'était trois questions, tu le soulignes d'ailleurs, c'était une volonté peut-être de réguler différemment, de modérer ou de dépérir. Je crois qu'il y avait trois options, quoi.
Bah, c'est-à-dire, en fait, le problème des réseaux sociaux, comme tu l'as dit dans le chapeau de l'introduction, ils sont, par structure, pour leur monétisation, ils sont toxiques. Parce qu'ils mettent, avec des effets de bulle, des internautes qui pensent la même chose ensemble. Et donc, ça crée des communautés qui peuvent être des communautés pour le bien, mais aussi des communautés pour le mal, en fait. Et c'est dans ce côté-là, qui peut pas forcément être la majorité, mais c'est dans ce côté-là où on a des dérives, et des dérives importantes, et on voit, par exemple, l'épisode qui a poussé Twitter, et c'est en fait tout ça, le déclenchement de la grande histoire, ce qui a poussé Twitter à supprimer le compte de Donald Trump, ça a été les émeutes qui ont amené l'attaque du Capitole aux États-Unis, et la plateforme a considéré justement que son on va dire sa mission est de réguler un certain nombre de messages qui peuvent pousser une cohorte de gens, et là c'était une cohorte d'Américains complètement fous, à rentrer dans ce qui est le symbole pour eux de la démocratie. Enfin voilà, enfin on marche sur la tête. On n'imagine pas des Français, quel que soit leur bord politique, pénétrer l'Assemblée nationale. Eh bien, il faut se dire que pour les Américains, le Capitole, c'est encore plus sacré que l'Assemblée nationale française. Donc, on imagine, tu vois, le degré de choc. Et donc là, on voit bien que une entreprise de réseau social, même si pour être monétisée, elle construit grâce à ses algorithmes de recommandation et ses algorithmes de push des posts qui nous ressemblent ou qui pourraient susciter notre intérêt pour justement mieux monétiser son audience, si elle n'est pas capable de modérer cette audience, si elle n'est pas capable de réguler, eh bien, en fait, elle va dépérir. Pourquoi ? Parce qu'elle vit essentiellement, et on le voit bien quand on parle de Meta et donc de Facebook, on voit bien que ce sont des machines à cash parce qu'elles vivent de la publicité, enfin de l'argent des annonceurs qui, justement, se servent de ces bulles pour pénétrer ces bulles comme autant de cohortes, de clients potentiels qui pourraient être satisfaits de voir apparaître une annonce sur tel ou tel produit parce qu'ils ont décidé que, finalement, c'était une cible qui était prioritaire pour eux et qui, potentiellement, était susceptible d'adopter leur produit ou leur service. Donc, un annonceur annonce sur un réseau social et imaginons que cet annonceur se retrouve en proximité de messages, de posts qui sont déviants pour multiples raisons, on ne va pas les énoncer, il y en a tellement, eh bien l'annonceur se trouve en porte-à-faux. Donc, si je ne souhaite pas être affiché avec des propos X ou Y qui ne sont pas liés ou qui détériorent mon image de marque, je ne prends pas de risque, je me retire. Et donc, si je ne suis pas capable de réguler, je suis amené à dépérir. C'est un petit peu ça la première partie. Et donc, forcément, quand Elon Musk rachète, il faut le dire quand même, sur un coup de tête Twitter, il s'y engage à un moment et puis il est contraint et forcé de continuer aller jusqu'au bout hein, et ça lui coûte quelques dizaines de milliards, eh bien il se dit à la base, avant même que ça lui coûte une dizaine de milliards, je vais prendre la parole sur les instances dirigeantes de cette plateforme parce que je considère, et ça c'est le premier amendement de la Constitution américaine, que la liberté d'expression doit être absolue. Sauf que quand on est libre de dire ce que l'on veut, on est aussi libre de dire des conneries. Et quand je dis conneries, c'est le mot gentil pour dire des choses qui peuvent être infâmes.
Bah, c'est vrai que depuis quelques mois, on peut, enfin, moi j'en atteste personnellement, le contenu qui se retrouve sur X aujourd'hui est d'une violence inouïe. Alors je ne sais pas dans quelle bulle je suis enfermé ou retargeté, de quelle manière. Bah, franchement, si je n'ai pas une photo de mecs qui sont en train de se taper dessus ou de vidéos en permanence, c'est assez hallucinant. À me demander, en tout cas, je me suis posé la question s'il y avait encore une vraie modération ou pas.
C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus le problème que, et je le cite dans l'article, Laurence Lessig, qui en 2000, il y a 24 ans, on est à la naissance d'un Internet grand public. Hein, c'est 11 ans après le début de l'Internet, enfin 1989, le World Wide Web, etc. Il s'interroge déjà en disant, attention, l'architecture de ce qui nous met en réseau est quelque chose qui est plus fort que la loi. C'est-à-dire, en fonction de l'architecture, vous allez avoir des effets positifs ou négatifs. Il y avait une interview d'un spécialiste des réseaux sociaux il y a quelques temps chez notre complice parfois Jérôme Colombin, un spécialiste qui s'appelle Jean Catan, et qui donnait cet exemple assez incroyable, et je l'ai pas mis dans l'article parce que j'avais pas la place, mais qui donnait cet exemple incroyable, qui dit voilà, Paris sous Haussmann. Avant Haussmann, on a des tas de petites rues assez mal famées qui sont des coupes-gorges. Quand vous avez, et qui sont très faciles, on le voit avec les écrits de Victor Hugo, très faciles de monter des barricades. Quand Haussmann arrive, il crée des grands boulevards. Difficile de monter des barricades dans des boulevards qui font 70 mètres de large. Et à partir de ce moment-là, tu te fais la réflexion. L'architecture génère en fait l'attitude.
Et donc génère en tout cas cette toxicité que l'on peut constater aujourd'hui. C'était la fin finalement de cette première partie. Tu soulignes d'ailleurs que finalement, après 16 ans d'existence, Twitter a quelque part été victime de son succès.
Alors, il est victime de son succès parce que, d'abord, Elon Musk ne va pas sur Twitter tout de suite, mais il en devient progressivement un contributeur extrêmement suivi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il poste des choses incohérentes, mais c'est quelqu'un qui est épidermiquement rattaché à cette plateforme. Quelque chose lui traverse la tête, il le tweet. Quitte à se contredire dans un contre-tweet quelques minutes ou quelques heures après. C'est quelqu'un qui est impulsivement branché sur Twitter. La fusée SpaceX décolle, tac, un tweet. Le premier étage se sépare avec les boosters, paf, un tweet. Enfin, c'est un Twitter compulsif. Et ce qui est étonnant, c'est que nous aussi, on peut devenir des Twitter compulsifs, mais c'est pas certain que l'on obtienne, comme le décompte avait été donné en janvier 2024, donc il y a quelques mois, pratiquement 170 millions d'abonnés, c'est-à-dire plus que le deuxième plus célèbre compte qui a un maximum de followers, c'est-à-dire Barack Obama, qui en a un peu plus de 100 millions. Donc, quelque part, c'est parce qu'il est complètement accro à Twitter qui se rend compte que finalement, cette plateforme a d'énormes pouvoirs. Elle a d'énormes pouvoirs parce que finalement, prenons le cas d'Elon Musk et notamment de sa marque emblématique qui est Tesla. Tesla n'a jamais dépensé un centime quasiment de marketing parce qu'il suffisait qu'Elon Musk se éternue sur Twitter pour que l'action monte ou descende ou qu'un partenaire qui rentre dans le périmètre ou le giron de Tesla soit annoncé pour que les actions du partenaire se mettent à flamber, etc. Donc on voit bien que les statistiques d'ailleurs ont été éditées. C'était pas dans le New York Times d'ailleurs, où ils avaient identifié que Tesla dépensait 3 fois plus en R&D que ses concurrents. Bah oui, parce que ses concurrents, ils doivent faire du market à mort pour que toi, tu puisses acheter leur voiture. Pas chez Tesla, c'est pas la peine. Donc, tout cet argent économisé, alors je dis pas grâce à Twitter, mais Twitter est un des leviers, et bien finalement, ce levier-là a été victime de son succès parce que finalement, ça a créé un énorme levier de croissance pour Elon Musk. C'est un levier de croissance énorme pour envahir le Capitole parce que la voix de Donald Trump portait énormément. C'était un porte-voix colossal. Bref, c'est quelque part le rachat. Alors, à considérer que le rachat pouvait faire une victime. On va dire que ceux qui étaient propriétaires de Twitter en amont, on récupérait les 44 milliards de dollars. Hein, donc, ça n'a pas fait que des victimes. Hein, ça a fait aussi des heureux.
C'est quand même les revenus publicitaires de cet épisode. Donc,
Exactement. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'était contre l'avis de son entourage qu'il a quand même été obligé d'honorer son pari, son délire, sa proposition probablement faite de façon un peu hâtive et hasardeuse.
Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est que finalement, de Twitter à X, ce n'est pas quelque chose qui finalement était nouveau dans l'esprit d'Elon Musk, cette transformation?
Eh bien, en fait, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Elon Musk, on le connaît évidemment par Tesla, par SpaceX, par son action à l'initiative d'OpenAI, etc. Mais ce qu'on dit un peu moins aujourd'hui, mais ce qui est très très connu, c'est qu'il est le fondateur de PayPal, ce système de paiement que beaucoup d'internautes utilisent. Eh bien, avant même d'avoir créé PayPal, dans le cerveau d'Elon Musk avait germé l'idée de développer une plateforme qui se serait appelée X.com, X étant sa lettre favorite, et que cette plateforme était une plateforme multiservice, un peu ce que l'on a appelé pendant quelques temps, c'était à la mode, tu sais, les super apps. À l'image de WeChat en Chine.
Oui, oui.
Donc, c'était une super application, une super plateforme qui te permettait de tout faire, du social, de l'achat, de la revente, de l'info, bref, ton compte en banque, enfin, voilà. Et donc, ça, c'était une idée qu'il avait avant PayPal. Et donc là, quelques années après, eh bien, on revient sur le fait, finalement, je prends la main sur ce réseau social et pourquoi pas le transformer en super app, c'est-à-dire lui faire faire des choses qui, dans son ADN, n'étaient pas complètement prévues. Et là, finalement, il va falloir réorganiser les équipes. Oui. Réimaginer les orientations stratégiques. Et là, c'est là où Musk, et on l'entend parce que dans l'actualité, on a encore entendu quelques milliers de licenciements chez Tesla, l'équipe marketing qui se fait virer du jour au lendemain, enfin bon, parce qu'il en avait quand même acquis une il y a quelques temps, enfin il y a assez peu de temps, bref, il a quand même une gestion assez, on dira en français, plutôt brutale. De la ressource humaine.
On peut dire ça.
Et quelque part, ces premiers mois de reprise de Twitter, c'est évidemment un esprit X qui se dessine tout de suite, puisqu'il change le nom. Alors, ce qui est quand même étonnant, tu vois, on voit, nous, des marques de notre enfance qui avaient disparu, ressurgir, parce que la marque, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire intégrer dans l'imaginaire collectif. Tout le monde se souvient des yaourts Maminova. Maminova, la marque avait disparu pendant des années, mais on sait qu'il y a un capital derrière cette marque. Il y a des gens qui la connaissent, tu vois. Et ben, Twitter, c'est pareil.
Rien à foutre.
Table rase, tabula rasa, terminé, on va changer tout. Et là, X, pour tout le monde, X, ça veut rien dire. Hein, en plus, c'est l'inconnu, donc voilà. Mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Hein, on dirait France Gall qui chante. Et donc, il a quand même une attitude qui est, qui est complètement à l'inverse de tout stratège marketing dans l'absolu, tu vois, de s'appuyer sur une marque, de la faire évoluer. Non, non, on fait table rase et on repart à zéro. Et donc, il faut dire que jusqu'à mai de l'année dernière, mai 2023, c'est quand même un peu la décrépitude. C'est-à-dire message toxique. Alors, toi, tu as témoigné que c'était toujours un peu la même chose, mais message toxique. Il faut savoir que un certain Yoel Roze, qui a été pendant des années le chef du département de confiance et de sécurité, c'est-à-dire celui qui est à la tête de tous ceux qui vont organiser la modération sur la plateforme, la régulation, eh bien, un jour ou l'autre, il n'a pas viré. Il est parti. Il s'en est pris à son homosexualité. Enfin bon, bref, que des trucs pas cool. Pour un mec qui pourrait sembler pour beaucoup, moi je l'ai dit dans un poste, c'est quelqu'un qui est complètement adulé par certains.
Et détesté par d'autres.
Hein.
Sur ces Dr. Jekyll and Mr. Hyde sur une seule personne, ça c'est.
Exactement. Et c'est vrai que pendant cette période de grand chambardement, eh bien, on voit que Twitter dépérit complètement. Et il appelle au secours Linda Iaccarino, qui est une femme de médias, donc une femme de contenu, une femme qui sait ce que passer des messages et des mots et que le mot veut dire. Et donc, à sa charge de transformer Twitter en super application, je pense qu'à sa charge surtout de ramener les annonceurs et d'essayer de ramener la confiance. Donc ça, c'était le mandat qu'elle a depuis à peu près un an. D'ailleurs, dans l'épisode, rappelle-toi, dans l'épisode que l'on a fait sur le prochain Vivatech, j'ai indiqué que Linda Iaccarino était speaker et que ça serait très intéressant d'aller écouter ce qu'elle disait, surtout que l'année dernière, Elon Musk, qui était de passage à Paris et qui était le speaker vedette de Vivatech 2023, avait répondu, si c'était à refaire, je ne rachèterais pas Twitter.
Comme quoi, on peut. Alors en même temps, et pour terminer cet épisode, il y avait un sujet sur la fin de ton article où tu dis finalement que l'intelligence artificielle, c'est un peu le salut, c'est un peu ce qui va peut-être sauver, recréer finalement ce X à l'état tel que Elon Musk en fait le voyait.
Alors, moi, mon idée, alors c'est ça, là on est dans la prospective, hein, et c'est ce qu'on aime faire aussi. C'est évident que en faisant l'acquisition de Twitter, il a forcément gagné un pouvoir politique extraordinairement important. Hein, il a gardé ses followers, etc. Mais derrière tout ça, il a quitté OpenAI. Il y a une intelligence artificielle générative qui est proposée aux abonnés premium de Twitter. Hein, pas toi et moi si tu es pas abonné premium. Son intelligence artificielle qu'il appelle Grok AI. Et Grok AI va peut-être, en s'appuyant sur le dataset de Twitter, faire quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui a été fait de façon comparable par une plateforme qui s'appelle Perplexity, c'est-à-dire de donner la possibilité d'aller chercher sur Twitter des informations que tu as besoin de connaître ou des informations que tu souhaiterais découvrir ou connaître et qui, par là même, n'aurait plus besoin de modérateur. Puisque quelque part, tu vas chercher l'information et c'est l'intelligence artificielle qui va remonter les informations suivant tes indications. Tu es ton propre gestionnaire de tes préférences, tu es ton propre modérateur, tu es ton propre. En fait, tu as la main, tu n'as plus besoin de ces fameuses recommandations et donc de ces fameux algorithmes. Alors peut-être que sur le plan publicitaire, c'est de la perte de revenus, mais sur le plan de l'abonnement et de la pertinence, puisque le dataset de Twitter est quand même, vu ses contributeurs, très important, peut-être que là, c'est un nouveau modèle économique, sans s'appuyer forcément sur cette super app qu'il avait rêvé de faire, ou peut-être rêvé de transformer Twitter en super app, c'est-à-dire peut-être que le modèle économique de cette IA générative, s'appuyant sur ce dataset extraordinaire, va pouvoir donner à X Twitter un nouveau modèle économique et qui finalement, et les livres d'histoire peut-être de nos petits-enfants ou de nos enfants le diront, que c'était une idée de génie de le racheter. Parce qu'il a créé un nouveau modèle économique basé sur l'intelligence artificielle, ce qui donne la main aux internautes grâce au magnifique dataset de la plateforme qui est basée sur ce réseau social.
Donc si je résume, Lionel, vrai coup de génie pour conclure cet épisode.
Vrai coup de génie, peut-être, l'avenir nous le dira.
Eh bien, merci Lionel. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet article sur mondedesgrandesécoles.fr et le titre achat de Twitter, la riche idée d'Elon Musk avec un point d'interrogation, rappelons-le. Sans transition, nous partons à la rencontre de deux cofondateurs qui ont créé il y a peu, un peu moins d'un an, My Kids Factory, Victor Abraham et Julien Piau, qui vont nous parler de cette application qui redonne goût à la lecture aux enfants, alors jeunes enfants ou moins jeunes enfants, avec des histoires créées par l'intelligence artificielle ultra personnalisées pour engager la lecture et puis naturellement leur redonner goût à finalement un loisir peut-être perdu au travers de tous ces écrans, nous en parlerons également. Bonjour à vous deux, et première question, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter My Kid Story ?
Eh bien écoute, je vais t'en parler, puis après je laisserai Julien un petit peu d'expliquer la genèse du projet, qui est un projet qu'on développe depuis un an maintenant, qu'on a testé il y a quelques mois auprès de plusieurs centaines de familles, et qu'on a lancé tout récemment, il y a un mois à peu près, auprès du grand public. Alors, pour te la faire un peu simple, My Kid Story, c'est une plateforme éducative qui permet de créer des livres physiques comme numériques et interactifs pour des enfants afin qu'ils puissent, si tu veux, apprendre en s'amusant sur des sujets divers et variés, sur la confiance en soi, sur l'écologie et même plus globalement, si tu veux, sur les sujets qu'ils veulent, qu'ils ont rencontrés au cours de leur journée, puisque les enfants, en fait, ils apprennent beaucoup, ils découvrent plein de nouvelles choses. Et l'idée, c'est que les parents puissent proposer aux enfants des histoires qui allient à la fois le côté ludique et le côté éducatif. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir l'histoire du soir ou l'histoire de la semaine, d'accord, avec un prénom de l'enfant, avec l'âge de l'enfant, une photo de l'enfant, puisque ce sont vraiment des livres qui sont aussi illustrés. On a une partie audio et une partie aussi illustrée. Et à partir de ça, et une description de ce que le parent souhaite que son enfant apprenne, on est capable de pouvoir générer un livre entier, un livre illustré sur lequel l'enfant est vraiment le héros de son histoire. Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que l'enfant réapprenne et s'intègre, si tu veux, au maximum dans son apprentissage pour le fidéliser au maximum et puis qu'il aime apprendre.
Alors, c'est pas uniquement dédié à l'éveil, c'est-à-dire aux 1-5 ans, ça va beaucoup plus loin. Avant d'attaquer quand même le sujet sur l'IA et l'éducation, le rapport aux écrans sur lequel j'aimerais aussi vous poser quelques
Absolument.
Questions, c'est pas destiné qu'aux petits-enfants, c'est aussi aux plus grands.
Non, c'est pas en effet décidé aux petits-enfants. Alors, nous, on est sur une tranche jeunesse, d'accord, puisqu'on va jusqu'aux 12 ans, d'accord. Et on a tout un tas de systèmes en fonction de l'âge de l'enfant. On parlera aussi justement du rapport à l'écran. Si tu veux, pour les enfants les plus jeunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment chercher dans nos histoires, parce que vraiment nos histoires sont adaptées au maximum, et d'ailleurs les features qu'on propose aussi sont adaptées à l'âge de l'enfant. Chez les plus jeunes, ce qu'on va chercher, c'est vraiment l'éveil des mots, d'accord, via les histoires audio. Un peu plus tard, sous les 5-7 ans, on va vraiment essayer déjà de faire apprendre la lecture avec un système de définition, puisque, si tu veux, dans nos livres illustrés, l'enfant pourra cliquer sur un mot qu'il ne connaît pas, d'accord, ou le parent, et il pourra découvrir une définition qui est adaptée à son âge. Voilà. Un peu plus tard, on aura justement tout ce rapport à tout ce qui va être rapport sociaux, à l'écologie, aux mathématiques, etc.
Aux bonnes manières,
absolument. Et un peu plus tard, jusqu'aux 12 ans, là, on va rentrer dans des sujets un peu plus profonds, puisque quand le parent ou l'enfant décidera d'apprendre sur un sujet, par exemple l'astronomie, eh bien, nos livres rentreront un petit peu justement en profondeur sur ces sujets-là. Les gens connaissent peut-être les cabanes magiques, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. C'est un peu l'idée, si tu veux, de My Kid Story, mais l'idée étant de le faire vraiment de manière ultra personnalisée et à l'échelle.
Donc My Kid Story, une application qui est dédiée à l'apprentissage de la lecture, à la culture aussi en général, je pense, parce qu'au travers d'une découverte aussi des mots, de réapprendre peut-être à lire. D'où est venu ce rapport à la lecture ? Quand on se lance dans une application comme celle-ci, très certainement extra-concurrentielle, avec beaucoup d'acteurs sur le marché, c'est quoi, quelles sont vos convictions, celles qui ont l'idée, la création de cette aventure entrepreneuriale ?
Alors, là-dessus, je vais continuer ce que disait Victor. Nous, en fait, on est
partie d'un constat déjà de par notre entourage. Si tu veux, on se rend du compte qu'il y avait quand même une perte d'intérêt pour la lecture chez les enfants. Malgré le fait que les enfants aient envie d'apprendre et ont souvent une vivacité d'esprit quand même qui est très forte. On a aussi, pour appuyer ce constat, bah l'enquête PISA en 2022 qui a révélé que justement, les enfants, lorsqu'ils arrivaient en primaire, près d'un enfant sur deux n'avait pas le niveau de lecture requis, ce qui pose problème quand même pour l'évolution. Également, en parallèle, on constate qu'il y a quand même une baisse des professeurs, notamment dans l'enseignement français et un peu plus globalement en Europe. Donc l'idée après, c'était de se poser la question de comment justement stimuler la créativité, comment stimuler l'envie chez les enfants d'apprendre. Et pour ça, c'est vrai que je pense qu'on a tous en mémoire un divertissement, un livre, une histoire qui nous a marqué dans notre enfance. Moi, personnellement, c'était justement un livre personnalisé, alors que c'était simplement le prénom. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas oublié. Et je pense que ça, la personnalisation a un impact très fort et pour donner le goût de la lecture et pour justement avoir envie de créer plein d'histoires et du coup, in fine, pour apprendre.
Donc, ça donne des histoires personnalisées, personnalisable, oui. Dans laquelle je pense que dans votre processus et créatif, rédactionnel ou autre, l'intelligence artificielle ne doit pas être loin, l'intelligence artificielle générative. Comment se passe ce rapport à l'IA et à la création dans le processus des histoires que vous développez ?
Alors, justement, nous, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les technologies des LLM, donc des modèles de langage large. Moi, personnellement, j'avais déjà... eu la chance d'entreprendre avant, dans ce qui se faisait avant, puisque l'LLM, c'est assez récent. C'est un peu la révolution dans la révolution de l'IA. Moi, précédemment, j'ai eu plusieurs projets, justement, dans ce qui s'appelait NLP, NLU, donc qui sont des... Si tu veux, la compréhension des mots via une intelligence artificielle et le processing de ces mots-là. Et donc du coup, sur My Kid Story, vraiment, on essaie de le mettre au centre pour pouvoir produire des histoires qui soient à la fois cohérentes, à la fois correctes et qui puissent être à l'échelle, puisque l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une personnalisation extrême, d'accord, pour l'enfant. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on intègre entièrement, à la fois dans les textes, mais aussi, si tu veux, dans la génération des images. Voilà. On fait bien sûr appel à des psychothérapeutes et justement parce que en fait l'histoire doit vraiment être cohérente, l'histoire doit vraiment permettre d'apprendre. Donc en amont et pendant nos tests, on travaille justement à diriger l'IA, à modeler l'IA justement via différents modèles pour faire en sorte que ces histoires soient générées encore une fois à l'échelle, d'accord, de manière autonome, mais en faisant bien attention, bien sûr, qu'il n'y ait pas de problème d'incohérence, que l'histoire ne génère pas d'inexactitude ou de propos qui ne soient pas bons. Voilà. Ouais. Donc vraiment, on est au cœur de l'IA. C'est vraiment une edtech, si tu veux, My Kid Story.
Bien sûr.
Qui permet d'apprendre à ce niveau-là.
Et dans le rapport technologique, là, plutôt si on descend un peu plus bas, vous appuyez sur sur quel type de technologie, côté plutôt GPT, est-ce que vous avez développé vos propres modèles ?
Alors, on évolue beaucoup, en fait, au niveau de nos technologies, puisque c'est un milieu qui évolue énormément. Tu as parlé d'OpenAI, justement, il y a plein de modèles qui sortent, il y a Mistral aussi qui apparaît. Ce sont justement des technos qu'on benchmark et on a un système qui est un peu multimodal, d'accord ? On va pouvoir piocher sur différents modèles. Le principal étant OpenAI. On a aussi du Mistral et on utilise des systèmes cloud justement via Amazon Bedrock sur justement les modèles de Meta qu'on va arriver à fine-tuner derrière, d'accord ? Donc sur des modèles qu'on prend, qu'on fine-tune justement pour avoir le résultat les plus optimaux possible. Et c'est un travail justement qu'on fait au long cours. Qu'on optimise vraiment tout le temps, ça fait partie justement de notre process actuel. On passe aussi, alors pour entrer un peu plus dans le côté techno, sur du on-prem, donc c'est-à-dire que on va héberger justement nos propres modèles pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première raison étant une raison économique, D'accord. La deuxième étant que on est de moins en moins dépendant et on essaie d'être de moins en moins dépendant technologiquement justement d'acteurs tiers. Ce qui est important justement quand on lance ce genre d'activité, puisque si on ne prévoit pas ce genre de choses, on peut très vite être dépassé. Se baser entièrement sur un seul modèle de langage, c'est pas forcément quelque chose de, je pense, d'optimal. Et de l'autre, c'est qu'on veut garder la main sur notre techno et sur notre process.
Dernière question, le rapport aux écrans. Comment vous le gérez quand des parents vous disent « Bon, bah, c'est super, j'ai des images personnalisées, une histoire personnalisée. Mon fils a pris goût à la lecture, mais alors il a encore plus scotché aux écrans. »
Julien, tu veux que je réponde ?
Alors, moi, je peux commencer sur le fait que nous, ce qu'on... Alors, on a travaillé avec des centaines de familles déjà en phase de test et aujourd'hui, on continue d'étudier les retours. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, souvent, les parents vont être un peu plus réfractaires, parfois aux écrans, lorsque l'enfant va être en bas âge, donc juste, on va dire, 5 ans. Donc, c'est pour ça là-dessus qu'on travaille beaucoup sur le livre audio. qu'on est en train de mettre en place pour essayer de contrer ça. À savoir aussi que d'un autre côté, les enfants, lorsqu'ils sont en bas âge, l'enfant n'est pas forcément n'a pas encore les facultés pour lire, donc c'est plus les parents qui vont lire l'histoire. Et ce qui peut aussi justement contrer cet usage de l'écran chez l'enfant.
Et c'est quelque chose aussi qu'on a pensé dès le début, puisqu'on permet justement aussi d'avoir des livres physiques.
Voilà.
D'accord ? Donc notre système est un système, si tu veux, d'abonnement, mais avec la possibilité de recevoir chez soi, on a les partenariats avec des imprimeurs pour recevoir justement le livre en physique, puisque c'est important d'avoir le toucher aussi hein, pour les plus jeunes. C'est quelque chose vraiment qu'on a évidemment pas oublié. Donc on allie justement à la fois l'apprentissage sur du physique, d'accord ? Et chez les plus âgés, sur des histoires interactives avec des systèmes de clics, avec des systèmes de quiz à la fin aussi, par exemple, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui est évidemment très important, sur lequel on parle beaucoup et on échange beaucoup avec les familles. Donc on travaille évidemment là-dessus avec justement les livres en physique qu'on peut recevoir chez soi quand les parents veulent, finalement.
Et dans cet écosystème, avant que l'on puisse terminer cette interview, dans l'écosystème avec Duluni, mais également d'autres acteurs que l'on voit fleurir, comment est-ce que vous vous situez ? Vous arrivez en pleine face de ces concurrents ou est-ce que vous vous différenciez vraiment par cette approche de personnalisation, ce qui n'est pas le cas parce qu'on peut avoir des codes avec le Luni, hein, on fait ses propres choix d'histoire, mais ce n'est pas aussi personnalisé. Est-ce que c'est vraiment la personnalisation et l'aspect éducatif qui prime dans votre ADN ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment la personnalisation et le côté éducatif qui prime. Aujourd'hui, Luni, je pense qu'il se base plus sur du divertissement pur pour les enfants et ça plaît beaucoup aux enfants. Mais nous, vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie grâce à de la personnalisation, grâce aux histoires personnalisées.
C'est vraiment, si tu veux, l'apprentissage par le storytelling. On cherche vraiment justement à utiliser non pas le livre comme un moyen uniquement ludique, mais vraiment le livre comme un moyen d'apprendre. L'apprentissage, c'est vraiment au cœur de notre concept.
Eh bien voilà, vous savez tout sur My Kid Story. Merci Victor et Julien d'être passés sur Innovation and Prospective Talk pour nous témoigner de cette aventure entrepreneuriale, ce nouveau service que je vous invite à tester de ce pas. C'est la fin de cet épisode d'Innovation and Prospective Talk sur lequel nous sommes revenus sur un des sujets passionnants, cette saga qui nous anime. On en parle tous les jours. Elon Musk, le rachat de Twitter, c'était-il une bonne idée ? Voilà, la question est vite répondue. En tout cas, l'article est disponible et on vous invite bien sûr avec Lionel à vous abonner à Innovation and Prospective Talk, à partager la bonne parole sur les plateformes Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passez une très bonne fin de semaine. Bye bye.
Bye bye.